Audiolib présente Un long chemin vers la liberté de Nelson Mandela, lu par Féodor Atkin. Première partie, une enfance à la campagne. En plus de la vie, d'une forte constitution et d'un lien immuable à la famille royale des Tembu, la seule chose que m'a donné mon père à la naissance a été un nom, Roli Tlatla. En Kossa, Roli Tlatla signifie littéralement « tirer la branche d'un arbre ». Mais dans la langue courante, sa signification plus précise est « celui qui crée des problèmes ». Je ne crois pas que les noms déterminent la destinée ni que mon père ait deviné mon avenir d'une façon ou d'une autre. Mais plus tard, des amis et des parents attribueront en plaisantant à mon nom de naissance les nombreuses tempêtes que j'ai déclenchées et endurées. Je suis né le 18 juillet 1918 à Mueso, un petit village au bord de la rivière Mbaché, dans le district d'Umtata, la capitale du Transkei, qui était alors la colonie britannique d'Afrique du Sud. Le Transkei est situé à 1200 km à l'est du Cap de Bonne-Espérance et à 900 km au sud de Johannesburg, et s'étend de la rivière Kei à la frontière du Natal, entre les montagnes déchiquetées du Drakensberg au nord et les eaux bleues de l'océan Indien à l'est. C'est un beau pays de collines ondulées, de vallées fertiles, où des milliers de rivières et de ruisseaux gardent le paysage toujours vert, même en hiver. Le Transkei, qui était la plus grande division territoriale à l'intérieur de l'Afrique du Sud, couvre une superficie à peu près égale à la Suisse, avec une population d'environ 3,5 millions de Kossa et une petite minorité de Basotho et de Blancs. C'est la patrie du peuple Tembu, de la nation Kossa, auquel j'appartiens. Mon père, Gadla Henry Mfakaniswa, était chef par la naissance et la coutume. Il avait été confirmé chef de Mueso par le roi de la tribu Tembu. Mais sous l'administration britannique, ce choix devait être ratifié par le gouvernement, qui à Mueso était représenté par le magistrat local. Mon père avait 4 épouses, dont la troisième, ma mère, s'appelait Noseki Fanny. Plus tard, j'ai découvert que mon père n'était pas seulement conseiller de roi, mais aussi faiseur de roi. Après la mort prématurée de Yongili Sui, dans les années 20, son fils, Sabata, n'avait pas l'âge d'accéder au trône. Une querelle naquit pour savoir qui on devait choisir pour lui succéder. On consulta mon père, qui recommanda Yogin Taba, et son choix fut accepté à la fois par les Tembu et par le gouvernement britannique. Plus tard, Yongin Taba devait rendre la faveur qui lui avait été faite d'une façon que mon père ne pouvait imaginer à l'époque. Les Kossa sont un peuple fier et patrilinéaire avec une langue expressive et mélodieuse et un attachement solide aux lois, à l'éducation et à la politesse. Je suis membre du clan Madiba, d'après un chef Tembu qui régnait dans le Transkei au XVIIIe siècle. On m'appelle souvent Madiba, mon nom de clan, ce qui est un terme de respect. Pendant des décennies, des histoires ont affirmé que j'appartenais à la lignée de succession au trône des Tembu. Mais ce n'est qu'un mythe. Bien que membre de la maison royale, je ne faisais pas partie des rares privilégiés formés pour gouverner. À la place, j'ai été préparé à conseiller les dirigeants de la tribu. Très jeune, j'ai passé l'essentiel de mon temps dans le veld, à jouer et à me battre avec les autres garçons du village. La nuit, je partageais mon repas et ma couverture avec ces mêmes garçons. Je n'avais pas plus de 5 ans quand j'ai commencé à garder les moutons et les veaux dans les prés. j'ai découvert l'attachement presque mystique des Cossins pour le bétail, non seulement comme source de nourriture et de richesse, mais comme bénédiction de Dieu et source de bonheur. C'est dans les prairies que j'ai appris à tuer des oiseaux avec une fronde, à récolter du miel sauvage, des fruits et des racines comestibles, à boire le lait chaud et sucré directement au pis de la vache, à nager dans les ruisseaux clairs et froids et à attraper des poissons avec un fil et un morceau de fil de fer aiguisé. J'ai appris le combat avec un bâton, un savoir essentiel à tout garçon africain de la campagne, et je suis devenu expert à ces diverses techniques. Parer les coups, faire une fausse attaque dans une direction et frapper dans une autre, échapper à un adversaire par un jeu de jambes rapide. C'est de cette époque que date mon amour du veld, des grands espaces, de la beauté simple de la nature, de la ligne pure de l'horizon. Et même aujourd'hui, quand je rêve ou me repose, mon esprit retourne à ces collines et à ces champs. Le premier jour de classe, mon institutrice, Miss Mdingane, nous a donné à chacun un prénom anglais et nous a dit que dorénavant, ce serait notre prénom à l'école. À cette époque, c'était la coutume, sans doute à cause de la prévention des Britanniques envers notre éducation. Celle que j'ai reçue était britannique, et les idées britanniques, la culture britannique, les institutions britanniques étaient censées être supérieures. La culture africaine n'existait pas. Ce jour-là, Miss Mdingane m'a dit que mon nouveau prénom serait Nelson. Une nuit, alors que j'avais 9 ans, je me suis rendu compte d'une grande agitation dans la maison. Mon père était dans la hutte de ma mère, allongé par terre, sur le dos, au milieu de ce qui semblait être une quinte de toux sans fin. Même avec mes yeux d'enfant, je me suis rendu compte que ses jours étaient comptés. Il avait une sorte de maladie pulmonaire, mais elle n'avait pas été diagnostiquée parce que mon père n'était jamais allé voir un médecin. Il resta dans la hutte pendant plusieurs jours, sans bouger, ni parler, et une nuit, son état empira. Ma mère et la plus jeune épouse de mon père, Noda Imani, qui était venue s'installer chez nous, le soignait. Tard dans la nuit, il appela Noda Imani. « Apporte-moi mon tabac, lui dit-il. » Ma mère et Noda Imani se concertèrent et décidèrent qu'il n'était pas prudent de lui donner son tabac dans cet état. Mais il continua à le réclamer, et finalement, Noda Imani lui bourra sa pipe, l'alluma et la lui donna. Mon père fuma et se calma. Il fuma pendant une heure environ. Puis, alors que sa pipe était encore allumée, il mourut. Je me souviens non d'avoir éprouvé un grand chagrin, mais de m'être senti abandonné. Sa mort changea toute ma vie d'une façon que je ne pouvais soupçonner à l'époque. Après une courte période de deuil, ma mère m'apprit que je quitterais bientôt le village. Je ne lui demandais pas pourquoi ni où j'irais. J'ai emballé les quelques affaires que je possédais, et un matin, de bonne heure, nous sommes partis vers l'ouest, vers ma nouvelle résidence. Nous avons marché en silence jusqu'à ce que le soleil descende lentement à l'horizon. Mais le silence du cœur entre une mère et son enfant n'est jamais celui de la solitude. Ma mère et moi, nous ne parlions jamais beaucoup, mais nous n'en avions pas besoin. Je n'ai jamais douté de son amour, ni de son soutien. Ce fut un voyage épuisant, sur des chemins boueux et pierreux, en remontant et en descendant les collines, en traversant de nombreux villages, mais nous ne nous arrêtions pas. En fin d'après-midi, au fond d'une petite vallée entourée d'arbres, nous sommes arrivés dans un village au centre duquel se dressait une maison belle et spacieuse, qui était tellement plus grande que tout ce que j'avais connu, que je ne pus être qu'émerveillé. L'ensemble des bâtiments comprenait deux yingshande, maisons carrées, et 7 huttes, imposantes, toutes blanchies à la chaux, ce qui les rendait éblouissantes même dans le soleil couchant. C'était la Great Place, la grande demeure, Mkekezweni, la capitale provisoire du Tembuland, la résidence royale du chef Jongintaba Dalindiebo, régent du peuple Tembu. J'ai appris plus tard qu'après la mort de mon père, Jongintaba avait proposé de devenir mon tuteur. Il me traiterait comme ses propres enfants et j'aurais les mêmes avantages qu'eux. Ma mère n'avait pas le choix. On ne refuse pas une telle proposition venant du régent. Je lui manquerais, mais elle était néanmoins satisfaite de savoir que je bénéficierais d'une meilleure éducation qu'avec elle. Le régent n'avait pas oublié que c'était grâce à l'intervention de mon père qu'il était devenu chef suzerain. Ma mère ne me fit pas de sermon, ne prononça aucun conseil de sagesse, ne me donna pas de baiser. Je pense qu'elle ne voulait pas que je me sente abandonné après son départ, et elle se conduisit donc comme tous les jours. La tendresse du regard de ma mère était toute l'affection et tout le soutien dont j'avais besoin. Et au moment de partir, elle se retourna vers moi et me dit « Ukini sufokoto kwedini ». Sois courageux, mon fils. Je fus rapidement entraîné dans la vie quotidienne de Mkekezweni. Un enfant s'adapte rapidement ou pas du tout. Et je m'étais adapté à la demeure royale comme si j'y avais été élevé. Pour moi, c'était un royaume magique. Tout me semblait enchanteur. Quand je n'allais pas à l'école, j'aidais au labour, je menais un chariot. J'étais berger. Je montais des chevaux et je tuais des oiseaux avec une fronde. Et parfois, je passais la soirée à danser tandis que les jeunes filles Tembu chantaient et tapaient des mains. Si le monde de Mkekezweni tournait autour du régent, le mien, plus petit, tournait autour de ses deux enfants. Justice, l'aîné, était son seul fils et l'héritier de la grande demeure. Nomafu était sa fille. Je vivais avec eux et j'étais traité exactement comme eux. Nous mangeions la même nourriture, nous portions les mêmes vêtements, nous accomplissions les mêmes corvées. Justice avait 4 ans de plus que moi, et après mon père, il devint mon premier héros. Je le respectais beaucoup. Grand, élégant, musclé. C'était un très bon sportif. Excellent en athlétisme, en cricket, en rugby et en football. Justice et moi, nous sommes devenus les meilleurs amis du monde. Et pourtant, nous étions très différents, à bien des égards. Il était extraverti, j'étais introverti. Il était gai, j'étais sérieux. Il réussissait sans effort, je devais travailler dur. Pour moi, il représentait tout ce qu'un jeune homme devait être et tout ce que je désirais devenir. Bien qu'on nous traitât de la même façon, des destinées différentes nous attendaient. Justice hériterait du rang de chef le plus puissant de la tribu des Tembu, tandis que j'hériterais de ce que le régent, dans sa générosité, voudrait bien me donner. À cause du respect universel dont bénéficiait le régent, de la part à la fois des Noirs et des Blancs, et du pouvoir apparemment sans limite qui était le sien, je considérais que la place du chef était le centre même autour duquel tournait toute la vie. Le pouvoir et l'influence du chef imprégnaient chaque aspect de notre existence à Mkekezweni. Et c'était le moyen essentiel par lequel on pouvait obtenir un statut influent.